peut toujours émettre l'hypothèse qu'il s'agit de la fin d'un cycle. Alors bon, l'expression est toujours un peu abrupte, ça ne veut pas dire qu'on change radicalement de chapitre, mais disons qu'il y a toute une structure politique de la gauche qui s'est construite, pour ne pas remonter plus loin, disons, depuis la libération, et notamment pendant la période dite des Trente Glorieuses, autrement dit des politiques keynésiennes, qui fait qu'on a une gauche syndicale et politique. Les partis communistes au sud de l'Europe et plus globalement en Europe, la social-démocratie, qui se sont enracinés électoralement et installés durablement dans le cadre de politiques de redistribution et notamment pour une part importante de gestion de l'État qu'on a appelé État-providence ou État social. Bon, à partir du moment où, à des rythmes différents, mais à partir du début de la contre-réforme libérale initiée en Angleterre et aux États-Unis en 79, début des années 80, les gouvernements de droite, mais aussi de gauche, en France comme en Italie ou en Espagne, ont collaboré ou carrément initié la démolition méthodique de ce compromis social de l'après-guerre. Bon, ils ont évidemment sapé et érodé les bases sur lesquelles même reposaient leur présence et leur rôle de représentation du point de vue électoral. Donc il y a là une perte avec évidemment comme conséquence et en même temps comme cause en retour une mutation en partie historiquement inévitable, mais pas forcément sous la forme qu'elle a prise des bases sociales de ces partis. Bon, ben, il suffit d'énumérer la disparition des bastions industriels, notamment pour le Parti communiste, hein, que ce soit les grandes usines de l'industrie automobile, que ce soit la sidérurgie, que ce soit les mines, ou en Angleterre, la défaite des mineurs, etc., ou la construction navale en Espagne. Bon, il y a évidemment, ça fait partie des transformations. Le problème est que la perte de ces points d'ancrage n'a pas été remplacée à la mesure par des implantations dans de nouvelles couches du salariat. Et puis, s'ajoute à ça les métamorphoses internes aussi de ces partis, notamment de la social-démocratie, là, pour le coup, dont, par le jeu des privatisations, les couches dirigeantes, en particulier de la social-démocratie européenne, qui reposait pour une part importante sur la haute administration, la fonction publique, avec, du point de vue de sa culture, un certain sens du service de l'État ou du bien public, on peut en penser ce qu'on veut, mais aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, et en revanche on a en contrepartie une fusion croissante des sommets de ces appareils politiques et syndicaux avec le monde de l'entreprise et de la finance. On peut voir comment des ministres socialistes en France comme Martine Aubry a fait la navette entre les ministères et les conseils d'administration, comment Strauss-Kahn est cofondateur avec le PDG de PSA de Club de l'Industrie, qui est le Gotha quand même des patrons de l'industrie française, comment Hubert Védrine vient de rentrer au service de LVMH. Il y a une porosité là-dessus qui est considérable. Alors après, évidemment, enfin peut-être le dernier mot, c'est la responsabilité politique des politiques suivies, qui au lieu de résister à cette tendance lourde liée à la contre-réforme libérale, à la mondialisation, comment au lieu de résister, finalement, les politiques des gauches européennes a largement accompagné cette évolution-là et y a contribué. Alors en Italie, ça a été avec le pacte de Léour à partir de 1976, donc très tôt. En Espagne, avec le pacte de la Moncloa et la transition monarchique négociée. En France, c'est venu plus tard, à partir de 1983. Mais si on fait le bilan quand même de 15 ans de gouvernement de gauche sur les 25 dernières années, c'est plus de la moitié. Bon, le bilan en termes de privatisation, de manière de se lier les mains avec le carcan européen des critères de convergence ou du pacte de stabilité, bon, il y a une responsabilité partagée qui a désorienté profondément ce qui aurait pu être construit de résistance dans la société, dans l'électorat de gauche. Moi, bon, c'était une commande, hein, Albin Michel m'avait demandé en 98 un bouquin qui était un an après le gouvernement Jospin. Je passais à l'époque en revue les différents dossiers finalement de la politique gouvernementale, que ce soit l'Europe, que ce soit les privatisations, que ce soit les 35 heures, etc., ou les sans-papiers. Bon, l'affaire était déjà écrite, peut-être pas sous la forme catastrophique de 2002, mais... Et le déclin du Parti communiste, c'était, voilà, à l'époque, les camarades m'en avaient voulu, parce que je disais que Robert Hue était un bonsaï de Gorbatchev, et que la mutation version U aurait les mêmes effets que la perestroïka de Gorbatchev. Ça s'est réalisé au-delà de ce que j'imaginais. Bon, on peut même le regretter, à la limite.
Et après, est-ce qu'on peut faire la critique aussi que les forces politiques de gauche soient trop focalisées sur des questions sociétales, comme on dit, ou sur la défense des acquis sociaux, la défense de l'État-providence, et qu'il n'y a plus forcément assez une remise en cause structurelle, économique, politique, culturelle, de la société actuelle?
Je ne dirais pas comme vous, parce que d'abord, je ne suis pas sûr qu'on entende la même chose par question sociétale. D'abord, le terme est apparu relativement tardivement, et il est apparu pour marquer une différence par rapport aux questions sociales. Et on a appelé question sociétale, justement, les questions importantes en soi, de mœurs, d'environnement, le Pax, le droit des femmes, etc., en le déconnectant justement des acquis sociaux considérés comme les acquis de la partie archaïque du monde du travail ou de la classe ouvrière. Mais cette dissociation n'était pas naturelle et spontanée, elle n'existait pas en 68 et dans l'immédiat après 68. Elle a été le fait d'une déconnexion précisément qui s'est opérée au cours des années 70 avec la réinterprétation de 68 comme essentiellement un mouvement de modernisation, mettant entre parenthèses, on en reparlera l'an prochain, ce qui a fait l'originalité de 68, qui est la grève générale, qui n'est pas une grève au sens archaïque, ouvriériste, toute la mythologie, Front populaire, etc., mais qui était à la fois dernière grande grève générale du cycle du XXe siècle, mais aussi, par bien des aspects, l'anticipation des mouvements sociaux du XXIe siècle. Bon, or, il y a une bataille d'interprétation sur 68. Elle a été gagnée par, disons, les sociolibéraux ou les libéraux libertaires en déconnectant ce que, dans leur bouquin sur le nouvel esprit du capitalisme, Boltanski et Chiappello appellent la critique artiste de la critique sociale. Bon, mais il n'y a là aucune fatalité, c'est un problème politique. Alors, est-ce que la gauche a été incapable de... Sûrement à bien des égards, mais le problème n'est pas là. Il y a deux problèmes. D'abord, il faut prendre la mesure d'une défaite historique. Hein. La défaite historique, ce qui s'est passé en Europe, notamment en Europe du Sud, il y a qu'à voir. Hein. Sur 25 ans, les réformes libérales sont rentrées, malgré les résistances, pour l'essentiel en pratique, sur les retraites, la protection sociale... les privatisations, et ça a des effets durables, y compris dans les têtes. Les gens s'étonnent que Sarkozy ait mordu sur l'électorat ouvrier. Pourquoi ? À partir du moment où les réformes déjà accomplies ont détruit les solidarités, développé les concurrences au sein même du salariat, avec l'individualisation des salaires, la flexibilité, etc., bon, eh bien, Sarkozy peut segmenter, y compris le salariat, et c'est pas vrai qu'il va taper sur tout le monde à part égale. Il trouvera des interlocuteurs et des partenaires, y compris syndicaux. Il trouvera des ouvriers qui seront contents de travailler plus pour gagner, pas grand-chose, mais un peu plus, et d'autres, comme ceux de Cronenbourg actuellement, qui voudront pas. Mais donc, il va jouer quelques... Il va développer l'accès à la propriété pour certaines couches intermédiaires. Thatcher l'avait fait en Angleterre. Mais ça, c'est exploiter une segmentation... qui a déjà eu lieu. Bien, mais ces défaites-là, le fait que le logiciel libéral soit entré pas seulement dans la loi, mais dans les têtes, ça correspond à une défaite, moi je crois, historique. Par ailleurs, ni rire ni pleurer, c'est pas pour s'arracher les cheveux, mais il faut au moins en prendre la mesure. Le fait qu'en moins de 15 ans, fasse irruption sur le marché mondial du travail, plusieurs centaines de millions de travailleurs chinois, russes et d'Europe de l'Est, avec des conditions de protection et de vente de leur force de travail à minima, c'est un phénomène qui va peser pour des années et des années sur le marché mondial du travail. Et ce n'est pas la faute des travailleurs chinois. Mais tant qu'ils n'auront pas eux-mêmes reconquis des droits sociaux, leurs moyens d'organisation, leurs forces syndicales, bien évidemment que cette dérégulation du marché du travail va peser à plein. Bon, alors c'est le problème. Alors maintenant, bien sûr, il y a des tas de phénomènes nouveaux, mais c'est pas tout à fait vrai que, ni au plan syndical, ni au plan politique, les organisations de gauche n'aient pas intégré les problèmes écologiques, les problèmes de la société, les problèmes de la culture, bien ou mal. Mais renvoyer ça à une simple crispation sur un vieux mouvement ouvrier corporatif, c'est une chimère. En revanche, je crois que le problème, c'est de savoir où on veut aller. Savoir si on veut reconstruire un mouvement ouvrier qui a été particulier, ou un mouvement social, pour être plus large dans le vocabulaire, qui est aujourd'hui à peu près en ruine. Si on regarde les effectifs syndicaux en France, c'est les plus bas depuis 1930. Les effectifs des partis, même d'un parti qui a été au gouvernement pendant 15 ans, le Parti Socialiste, qui compte à peu près bon an, mal an, à la veille des congrès, 160 000 membres, dont la moitié d'élus. Bon, c'est un appareil qui est moulé sur les institutions, ce qui guette aussi le Parti communiste, il devient de plus en plus aussi de ce type-là. Alors, à partir de là, si on veut reconstruire, il faut un projet à peu près ferme à long terme. On peut partir des préoccupations immédiates, salariales, d'emploi, contre les délocalisations. Le nouveau partage des richesses auquel beaucoup aspirent, qui est un thème classique de la gauche, qui demanderait d'inverser finalement l'évolution du partage capital-travail tel qu'il a évolué dans les 20 dernières années, mais ça ne peut pas se limiter à un slogan sur un autre partage des richesses. Un tel partage implique de toucher au cœur, au droit de propriété. Or aujourd'hui, ça paraît presque comme une énormité pornographique d'évoquer le problème. Même à l'occasion de débats sur le droit opposable au logement, on devrait s'interroger, opposable à quoi ? Opposable aux carences des pouvoirs publics quand ils ne sont pas capables de répondre à la demande de logement. Bon, d'accord, il y aura des procès si la loi est appliquée, si les décrets d'application viennent. Mais normalement, le droit opposable au logement, il est opposable au droit de propriété, qu'il s'agisse de réquisition de logements vides ou quand Sarkozy invoque l'absence de terrain disponible à bâtir pour la municipalité de Neuilly, c'est un problème de propriété foncière et immobilière. Ou bien la gauche s'assume sur un projet à moyen terme, elle est face à une triple crise social, pourquoi les gains de productivité produisent de l'exclusion au lieu de produire du temps libre pour la culture ou pour la vie civique, etc. Comment la crise écologique ne peut pas se gérer à travers les arbitrages boursiers à court terme? On ne gère pas par les cours de la bourse la déforestation, la pollution des océans ou le dérèglement climatique. Et puis une crise morale qui est par rapport, bon, qu'on n'a pas abordé du tout dans la campagne, qui est comment par rapport aux nouvelles technologies, en particulier génétiques, comment ça doit être géré, y compris pour définir des critères sur l'humanité que nous voulons devenir, et non pas laisser ça tout simplement au jeu des marchés, des firmes pharmaceutiques ou des labos privés. Bon, voilà la gamme de problèmes. Il y a largement de quoi là-dessus redéfinir un projet de gauche, mais pour ça il faut une volonté qui ne s'arrête pas à la première opération électorale venue et qui est la volonté de remettre sur pied un projet sur le moyen et le long terme, de s'y tenir et de reconstruire une confiance et une mobilisation autour de ça, dans des nouvelles générations, parce qu'il y a ça aussi comme problème. Elle demande au contraire de réaffirmer des lignes de front tranchées par rapport à la droite et au centre. C'est pour ça que le discours larmoyant sur les traîtres, les débauchages et les défections me paraît lamentable. D'une certaine manière, le rapport entre la gauche et la droite, la gauche du gouvernement et la droite, sont devenus tellement poreux au fil des années de cohabitation, que j'ai pas l'impression que Kouchner puisse se vivre, lui, comme un débauché ou comme un traître. Il appliquera ses convictions au service de Sarkozy comme il l'aurait fait au service de Strauss-Kahn. Et Védrine, comme haut fonctionnaire dans la diplomatie, aurait pu le faire de même. Donc le problème, il est plutôt là que d'avoir effacé les repères.
On parle d'une droite décomplexée avec Sarkozy. Est-ce qu'il faudrait pas, justement, et à l'inverse, une gauche plus décomplexée, alors que ce soit au niveau du langage? C'est vrai qu'il y a des mots qui sont peuvent devenir tabous, comme idéologie, bourgeoisie, lutte des classes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, au niveau du langage, ça affirmerait beaucoup plus, et au niveau d'un projet de gauche aussi, où on reparle d'un horizon qui est au-delà du capitalisme, qui reparle de communisme ou socialisme, alors pas forcément en prenant les vieux modèles, en réinventant, mais en portant vraiment un projet de transformation sociale.
Bon, d'abord, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une bataille d'idées, y compris de vocabulaire. À sa manière, le Front National l'avait exactement compris, qui a construit, il a même fait des séances de formation. Je ne dis pas que nous, on doit inventer un langage stéréotypé, une langue de bois de remplacement. Les mots ont une fonction, y compris de délimitation et de distinction, de perception. D'abord, ils organisent notre perception de la réalité. Or, le Front National, avec la bande des quatre, a construit une rhétorique de combat pendant que la gauche l'abandonnait au profit de l'euphémisme et de la périphrase. Effectivement, on ne parle plus de travailleurs, mais des gens. On ne parle plus de de lutte de classe, mais de conflictualité sociale, etc. Bon, on a l'impression qu'il faut mettre du coton autour des mots pour pas blesser. Mais je crois qu'à ce jeu-là, on est perdant. Bon, maintenant, ce n'est pas qu'une affaire de langage. On est dans un problème effectivement assez difficile pour une gauche, même de transformation sociale. Même ça, c'est un euphémisme. Alors aujourd'hui, ça paraît hardi, mais en fait, bon, il faut dire qu'on veut une autre société, changer le monde. Après tout, c'est encore plus urgent qu'à l'époque du manifeste communiste, hein, parce que sans voir les choses de manière trop sombre, mais en fait, là, les catastrophes sociales et écologiques cumulées font peser un vrai péril sur la planète et sur l'humanité. Réaffirmer cette volonté de changer le monde, alors au profit de quoi ? Alors, c'est là qu'il y a un problème, parce que on l'a vu dans la campagne, la question clé, c'était de remettre d'abord la question sociale au centre et de ne pas se laisser déporter, comme ça avait été le cas en 2002, sur la surenchère sécuritaire, ou comme ça a failli être le cas là, avec la guerre du drapeau contre l'identité nationale, telle que Ségolène l'avait engagée. Pour des tas de gens, c'est clair qu'il y a des situations de sinistre social et de détresse sociale qui, si elles ne trouvent pas leur expression dans une défense intransigeante à gauche, et c'est ce qui s'est passé pendant de longues années, on peut espérer qu'aujourd'hui ça change, mais c'était réfugié dans le vote FN. Dans le Nord ou le Pas-de-Calais, c'était quelque chose d'évident. Donc il faut d'abord réaffirmer ça, et c'est toute une série de questions concrètes au jour le jour sur les réformes de santé, sur les réformes d'éducation qui s'annoncent, qui à mon avis sont tout simplement l'ouverture de l'éducation au marché éducatif, dans le secondaire comme dans le supérieur. Bon, donc il y a ça. Alors comment articuler ces résistances-là à un projet social ambitieux? C'est la condition nécessaire d'organiser la résistance, c'est pas suffisant si on veut remobiliser quelque chose. Donc il y a un problème de projet. Le problème, c'est que cette question aujourd'hui est difficile, c'est pas qu'une question de mots, parce qu'on peut dire, bon, moi, je trouve que le mot de communisme était plus lourd à porter au début des années 90 qu'il l'est aujourd'hui, par exemple, parce que on a fait une enquête, d'ailleurs, par exemple, dans les sympathisants de la Ligue depuis 2002, ce qui les gêne le plus, c'est pas communiste, c'est révolutionnaire, parce que révolutionnaire associé, du point de vue du discours des médias, à l'idée de violence. Alors que communiste, il y a du commun, c'est une histoire, etc. Si on arrive à rompre l'identification avec le stalinisme, l'URSS, bon, et c'est déjà de l'histoire un peu ancienne pour les générations qui arrivent, c'est une idée qui a du contenu historique. Mais le problème, c'est que c'est pas uniquement avec des mots symboles qu'on peut travailler. Il faut qu'il y ait un rapport entre les urgences immédiates et un projet social. Or, là, on va porter durablement l'idée que, finalement, il y a un type de réponse qui a été tentée au XXe siècle, qui était une propriété étatique, une planification étatique ou bureaucratique, etc., que ça n'a pas marché, qu'a fortiori, ça pourrait encore moins marcher aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui ne permettent pas un tel degré de monopole de l'information, de la gestion, etc. Donc, il y a quelque chose à inventer. Alors, ce qui, en revanche, apparaît, c'est que ce besoin d'articulation entre le rejet des formes agressives et des dégâts du libéralisme et un projet social, il s'est exprimé dans la dernière décennie autour de, on pourrait pour résumer dire de ce qu'on a appelé le mouvement altermondialiste, mais je dirais qu'il s'est exprimé, c'est pas péjoratif, sous une forme utopique. J'entends par là des discours qui ressemblent fort, toutes choses égales par ailleurs, à la floraison utopique des années 1830-1840, c'est-à-dire d'une période de gestation d'un nouveau mouvement social après la Restauration, où montent les protestations contre l'ordre existant, où on entrevoit les possibilités d'autre chose, mais où n'existent pas encore les forces pour le porter, ni pour le définir. Ça va se décanter à partir des révolutions de 1848, et encore partiellement. Ben nous, c'est un peu analogue. Après la première vague de l'offensive ou de la contre-offensive libérale des années 80, l'effondrement de l'Union soviétique, mur de Berlin, etc., la résistance au libéralisme telle qu'elle s'est cristallisée à Seattle ou dans les forums sociaux, s'est traduite par un éventail d'utopies au sens d'une recherche prospective, mais sans avoir une stratégie, ou pour le dire plus sobrement, une orientation politique qui prolonge les résistances sociales. Alors ça peut aller du commerce équitable au microcrédit, au budget participatif de Porto Alegre, etc. Il y a dans tout ça des expérimentations, mais ça a toujours été le cas dans l'histoire des mouvements sociaux, qui sont des éléments et des ingrédients utiles pour reconstruire un projet, mais qui en soi n'en sont pas un, ou en tout cas le sont insuffisamment. Ce qui fait qu'il faut constater quelque chose pour les toutes dernières années, les 3-4 dernières années, c'est que peut-être un premier cycle d'action sociale identifié, disons, avec ce courant altermondialiste, s'essouffle ou arrive à la fin d'une séquence, non pas à la fin de son histoire, mais d'une séquence. Il faut simplement enregistrer que ce mouvement altermondialiste, à partir du premier grand forum de Porto Alegre en 2001, avait deux grands piliers en Amérique latine et en Europe. Le Parti des travailleurs au Brésil, avec le mouvement syndical, le mouvement des sans-terres, les mouvements sociaux qui lui sont à des degrés divers associés, et Refondation communiste en Europe, avec lui aussi ses relais dans le mouvement social, urbain, etc. Or, en très peu de temps et de manière spectaculaire, le Parti des travailleurs au Brésil est devenu le meilleur élève du Front monétaire international en Amérique latine, a payé sur rubis sur l'ongle le service de la dette et au-delà, de sorte que les engagements sur la réforme agraire ou le programme fin zéro n'ont pas été tenus. Lui a été réélu par défaut avec des mesures sociales réelles comme la bourse famille, mais qui n'est pas du tout un programme d'éradication de la faim, et des scandales, par ailleurs, une décomposition morale grave du PT, et que là, depuis l'an dernier, Refondation communiste en Italie a fait un virage, par rapport à son discours au moins, de ralliement au gouvernement de centre-gauche Prodi, de vote des budgets militaires pour la guerre en Afghanistan, de vote des privatisations, et quand va revenir le traité constitutionnel, même dans la version minimale Sarkozy, sur le tapis l'an prochain, au sein d'une coalition Prodi, au nom de la solidarité gouvernementale, ils l'avaleront aussi. Bon, pour moi, c'est un signe que si ce mouvement de remobilisation, de délégitimation du libéralisme ne trouve pas une expression politique, le balancier va repartir de ce côté-là, sur des politiques pseudo-réalistes, mais qui en fait vont démoraliser encore plus, puisqu'il y aura eu un début de reprise et de remobilisation, et de nouvelles déconvenues politiques. En France, je crains que l'avenir de la gauche soit celui-là. Pour nous, l'enjeu va être là. C'est-à-dire que, vu ce qui vient de se passer aux élections présidentielles et législatives, et vu le système, la dynamique bipartiste qui est en marche, ça va être tous derrière le Parti Socialiste, au nom du tout sauf Sarkozy, comme ça a été tous avec Prodi, au nom du tout sauf Berlusconi en Italie. Donc le problème va être de savoir s'il ne restera qu'une gauche en France, qui sera même pas une gauche social-démocrate au sens historique du terme, mais qui sera une gauche qui va accomplir ou finir d'accomplir sa mublériste autour de Ségolène Royal ou de Strauss-Kahn ou d'un autre, et dont le seul avenir imaginable de leur point de vue aujourd'hui, c'est finalement un grand parti démocrate ou un parti de centre-gauche dont la seule question est de savoir si Bayrou ou le Parti Socialiste actuel en aura le leadership. Bon, vu l'échec de Bayrou législatif, le Parti Socialiste va s'empresser d'occuper la place. Bon, alors voilà, c'est devant cette équation-là qu'on va être placé pour l'avenir de la gauche.
Au niveau des services publics, du couple liberté-sécurité, du travail, comment ces thèmes ont été abordés par la gauche ces dernières années? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils courent après la droite sur ces thèmes-là et qu'il n'y a pas du tout une vision alternative comme sur le travail, où Sarkozy porte son utopie travailler plus pour gagner plus, et il n'y a pas forcément un discours plus, assez élaboré sur le travailler tous et autrement, par exemple?
Alors, il y a un handicap, sérieux, effectivement, à gauche. Là, on n'est pas prêt non plus d'effacer les dégâts, pour le dire d'un mot, du mitterrandisme. Enfin, ça s'étend jusqu'au gouvernement Jospin. Sur les deux thèmes que vous dites, c'est-à-dire service public, les nationalisations même, dans leur dernière période, les entreprises nationalisées ou les services publics, postaux ou ferroviaires, etc., ont été tellement gérés sur le modèle de la concurrence marchande qu'au moment des privatisations de droite ou de gauche, ils ont été peu défendus. Les avantages du service public, tant qu'il n'y a pas d'éléments comparatifs, on voit les inconvénients, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on ne voit pas les avantages que ça peut avoir malgré tout d'un service public de qualité par rapport à la déréglementation. En Angleterre, il a suffi de quelques années pour que l'opinion publique se retourne et demande la renationalisation des chemins de fer. Pour les usagers, c'était pas évident, et pour les travailleurs de ces services publics, même s'il y a des avantages sociaux qui restaient, mais leur capacité d'intervention sur leur outil de travail, sur la finalité de leur travail, etc., de la démocratie sociale dans les entreprises, faisait que finalement étaient vécues déjà comme des entreprises, même quand elles étaient encore publiques, partiellement soumises aux règles de la concurrence marchande. Et sur les 35 heures, le problème vient de la manière dont était présentée, menée la bataille pour les 35 heures, et notamment sur le plan législatif par Martine Aubry. Les 35 heures avec flexibilité, ça a été dit et redit, y compris maintenant par Ségolène Royal qui s'est payée là-dessus une critique de gauche des 35 heures. C'est que ça signifiait de la perte de pouvoir d'achat pour certains qui en avaient besoin, du fait des formes de non-compensation ou de compensation salariale. Et d'un autre côté, ça a créé, mais beaucoup moins que possible ou prévu, de l'emploi. Donc, la gauche, entend les partis majoritaires dans la gauche, sont en position difficile pour engager la bataille sur ces questions essentielles, vu la façon dont l'enjeu a été brouillé à travers les réformes que souvent cette gauche au gouvernement a elle-même initiées. Il y a en plus un autre problème aujourd'hui qui s'ajoute à ça, c'est la difficulté à redresser la pente sur ces thématiques-là, parce que effectivement, il ne s'agit pas... Ce qui peut apparaître caïque, c'est de dire on veut revenir au statu quo ante. Or, ce n'est pas de ça qu'il devrait s'agir, mais aujourd'hui, une autre ambition, d'une certaine manière. Alors, à travailler plus pour gagner plus, outre le fait que c'est une mystification pure et simple. Mais effectivement, il faudrait avoir le courage de maintenir le thème du travailler moins pour travailler tous et pour vivre plus. Alors après, effectivement, dire « Ah, ben, ça serait sympathique, mais regardez les retraites, la sécurité sociale, le problème de financement. » Le problème de financement n'est pas insurmontable. Pourquoi un pays qui était en ruine en 1945, au sortir de la guerre, a pu se payer un service de protection sociale tel qu'il est ? Et ça a marché, il l'a financé par des gains de productivité. Les gains de productivité actuels, 1% de gains de productivité déplacés sur les retraites ou un service public du quatrième âge, ce n'est pas un bouleversement majeur dans la répartition du PIB. C'est un problème de volonté politique. Mais il faut avoir le courage de prendre le thème à bras le corps. Et sur les services publics, c'est un problème analogue où il ne s'agit pas simplement de rétablir, là encore, les services publics tels qu'ils existaient, encore que... Il y a des questions sur l'eau, sur la voirie. Tout ça pourrait très bien relever d'un service public, surtout si c'est rentable, et même avec des tarifs beaucoup plus bas que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui par le privé. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux qui comprennent le chemin de fer, qui comprennent les politiques énergétiques, le service public se pose d'emblée au niveau européen. Et de même que les droits sociaux, parce qu'évidemment, l'argument va venir tout de suite. Hein, mais travailler moins si les autres travaillent plus. D'où l'idée qu'il ne peut y avoir aucun nouvel accord au niveau européen sans poser comme préalable, ce qui est conforme au mandat du non-référendum de 2005, des critères de convergence sociale. Je ne dis même pas de but en blanc un SMIC européen, parce que ça ne serait pas réaliste avec la Bulgarie ou la Roumanie, mais des critères de convergence qui fassent que le problème du plombier polonais, entre parenthèses, rencontrer les syndicalistes polonais au Forum social d'Athènes en 2006, qui, contrairement à ce qui a été dit à l'époque, ne considéraient pas du tout que la position des porte-parole du nom de gauche au moment du référendum sur la fameuse polémique sur le plombier polonais était une position xénophobe ou nationaliste. Ils demandaient au contraire des contacts avec les syndicats français pour exiger les mêmes droits par rapport aux conditions dans lesquelles travaillent les travailleurs polonais en sous-traitance dans les chantiers navals de Saint-Nazaire ou en situation de quasi-servage dans la main-d'œuvre saisonnière au sud de l'Italie. Enfin, bon, c'est vrai que tout se tient. Moi, je suis assez étonné, par exemple. Enfin, pas étonné, non, là, je serais hypocrite à la limite de dire ça. Mais malheureusement pas étonné de la manière dont, moins de 2 ans après le référendum de 2005, la question européenne a disparu pratiquement de la campagne. C'était pas une question de politique étrangère ou une question exotique. Si on prend l'affaire Airbus qui s'est posée pendant la campagne, recapitaliser Airbus posera d'emblée un problème d'accord et de feu vert de la Commission de Bruxelles. C'est normalement contradictoire avec la concurrence non faussée. Bon, donc c'était une question qui était directement liée aux questions en jeu dans la campagne. Mais il y a eu un consensus entre la droite et le PS. La droite avait intérêt à laisser passer les élections pour dégainer le mini-traité de Sarkozy. Et le PS faire oublier que sa synthèse du Mans avait laissé sous le paillasson la question du clivage entre le oui et le non. Mais bon, la question va ressurgir avant la fin de l'année.
Parfois, on présente l'image d'une gauche qui serait immobile, ringarde, voire ennuyeuse. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de remplacement des générations, ou du moins de fait d'attirer vers la gauche les jeunes générations? Et par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'organisation interne, que ce soit des partis politiques ou d'un mouvement social, des organisations qui seraient trop hiérarchiques, trop verticales, où on n'aurait pas assez de participation, trop calqué sur les anciens modèles de partis centralisés?
En anticipant un peu, je pense que c'est presque le problème inverse qui se pose, ce que vous suggérez. Sur l'aspect plus directement culturel, je voyais un problème culturel général et un problème institutionnel. Le problème culturel, c'est que la gauche, au sens large, hein, traditionnellement, symbolisée justement par Jaurès, Blum, etc., qui étaient des personnages de culture, c'est ce que Régis Debray appellerait la gauche vivait sur la culture de la graphosphère, de l'écrit, de l'université, etc. Déjà avant, mais a fortiori pendant cette campagne électorale, la vidéosphère a écrasé la graphosphère. Donc on peut se batailler encore pour faire des pétitions de soutien à tel ou tel candidat des intellectuels, tout le monde s'en fout, franchement. C'est plus important de faire Doc Gineco, Johnny Hallyday ou un rappeur, c'est pas forcément que de droite, hein, que les 200 universitaires qui ont soutenu Ségolène Royal et le premier tour. Tout le monde s'en fout. Donc je dis sans illusion, moi je suis plutôt de cette culture, de cette génération-là. Mais ça peut par ailleurs devenir un vrai problème. Donc je crois qu'il y a un tournant culturel qui est, évidemment, qui s'appuie aussi sur l'effet médiatique, sur la culture de l'image, qui n'a pas que des côtés négatifs, enfin qui pose un problème de changement d'univers culturel. Alors il se trouve que la gauche était plus ancrée dans la culture de l'écrit, de la graphosphère, pas seulement, hein, il y a eu d'excellents réalisateurs de télévision, etc. Il y a aujourd'hui tout un mouvement de contre-culture, de ce qu'il est convenu de dire les quartiers, du rap, du hip-hop, qui n'est pas à sens unique non plus, mais où il y a un bouillon de culture qui peut, d'ici quelques années, donner aussi des résultats. Bon, alors ça, évidemment, ça fait partie des nouveaux potentiels culturels d'une gauche reconstruite, si on veut le dire. Alors, en revanche, est-ce qu'il y a une stérilisation par les formes d'organisation ? Alors, je crois qu'il y a un problème institutionnel, hein, par ailleurs, c'est que c'est aussi des moyens matériels, la culture. Si l'université, qui est un vecteur culturel aussi, tend à être privatisée et ajustée de plus en plus à des missions de formation professionnelle, voire à des partenariats privés, ce qui va être encore plus le cas avec la réforme Pécresse, bon, évidemment, cet aspect, qui n'est pas le seul, qui est un aspect de professionnalisation, évidemment, quand il y a 60% de classe d'âge à l'université, ça ne peut pas être que pour la culture générale. Mais si on dit, comme le dit Attali dans son dernier bouquin, que 50% des connaissances actuelles seront obsolètes dans 30 ans, la condition pour évoluer, c'est quand même qu'il y ait un socle de connaissances générales et non pas de spécialisation à outrance. Donc il y a un problème de la mission culturelle de l'université. Et il y a d'autre part un problème du réseau municipal qui a été une des sources de stimulation culturelle, le réseau des théâtres populaires, etc., les ciné-clubs, qui souvent était un travail qui a été fait, et parfois et souvent bien fait, par les municipalités communistes, ou par les comités d'entreprise, ou en partenariat. Aujourd'hui, ces acteurs culturels, parce que c'est des acteurs à part entière, sont considérablement affaiblis. Ce qui veut dire que pour des jeunes créateurs ou musiciens, etc., le débouché pour vivre, c'est les grandes boîtes de musique, les grands éditeurs, etc. Mais ce support parallèle de contre-culture est très affaibli. S'y ajouter de manière aggravante, avec ses bons côtés, mais avec beaucoup d'effets pervers, la politique Jack Lang. Par exemple, directeurs de théâtre, c'était Versailles, c'est-à-dire une distribution de subventions, mais qui lie de plus en plus les politiques culturelles au ministère de la Culture, et qui finalement n'est pas la cause, mais accompagne la dévitalisation des rapports entre des pôles culturels et leur milieu social, etc. Bon, alors, est-ce que les formes d'organisation sont stérilisantes? Pourquoi je disais que je soupçonne avoir là-dessus un point de vue opposé, assez opposé au moins à la manière dont vous avez formulé la question? C'est que je crois que le vrai danger aujourd'hui, le vrai danger de stérilisation, c'est par la puissance aggravée de l'argent et des médias, et par la destruction de la vie démocratique. Les organisations, alors après on peut discuter des formes, de leur degré d'ouverture, de leur démocratie interne, de leur conception de la démocratie, mais c'est pas un problème même de parti d'avant-garde, de léninisme, de centralisme démocratique, mais toute organisation politique est une organisation d'adhésion volontaire, que ce soit le Parti Socialiste, qui ait peu ou beaucoup de membres. Toute organisation a ses règles et ses statuts, qui sont des règles de vie commune à partir du moment où on adhère volontairement. Ces règles ont un enjeu. C'est pour ça qu'il y a des congrès, qui est d'essayer de définir une orientation, de l'appliquer ensemble si possible, pour la mettre à l'épreuve de la pratique et des faits, pour la corriger éventuellement, etc. Mais c'est aussi créer un espace démocratique qui soit, pas de manière parfaite, ça n'existe pas, mais relativement protégé de la puissance de l'argent, une organisation, le Parti communiste, par la reversion des salaires de députés, etc., bon, créer une certaine égalité ou créer une certaine égalité interne qui, effectivement, se protège simplement de la puissance de l'argent et aujourd'hui de la puissance des médias. Parce que la tendance avec le poids de la télé, c'est de déposséder les organisations politiques du choix de leur parole et de leur porte-parole au profit d'une cooptation en fonction de la bonne bouille de tel ou tel qui fait, comme on le dit dans le jargon du métier, un bon client pour les plateaux télé les soirs d'élection. Mais alors, c'est une dégradation de la vie publique. Pour moi, l'innovation des adhérents à 20 euros pour le Parti Socialiste, qui n'est pas une invention de Ségolène, celle-là, mais où on paie 20 euros pour voter, pas pour militer, mais seulement pour voter, c'est un principe de parti d'opinion et non plus de parti militant, qui est un affaiblissement de la démocratie. Il y a des formes plus soft de ces dérives-là. La démocratie sans règles n'est plus démocratique. Je crois que c'est un des avatars de l'affaire du vote dans les collectifs unitaires. Moi, j'aurais été militant du PC, j'aurais été scandalisé qu'après le vote qui donnait incontestablement... Alors, oui, il fallait accepter ce vote dans les conditions où il se faisait, c'est-à-dire sans règles. Bon, mais dès lors qu'il était accepté, il était incontestable une majorité de votants pour la candidature de Marie-Georges Buffet. Alors, dire après coup, le n'est pas légitime alors qu'on n'a pas défini les règles avant, moi, je me serais senti floué hein, si j'avais été militant du PC à ce moment-là. Bon, mais c'est seulement la démonstration. Il ne s'agit pas de s'arrêter à ces choses-là, mais d'attirer quelques leçons qu'il n'y a de démocratie qu'organisée. Alors, elle n'est pas forcément ultra-hiérarchique. Hein, moi, il se trouve que j'ai été exclu du PC en 66. Je n'ai jamais depuis été dans une organisation où il y avait une orthodoxie théorique ou culturelle. Il y a un fond commun de marxisme avec une pluralité de lecture de Marx. Il n'y a jamais eu une orthodoxie de matériel. Il y a eu des althusseriens, des sartriens en même temps, ou des lefebvriens, tout ce qu'on veut. La politique, c'est un accord sur une base pour agir dans le moyen et le long terme. On ne se met pas d'accord sur l'anthropologie ou la théorie de la plus-value, même si c'est important. Bon, voilà. Alors, à partir de là, les techniques comme Internet, entre autres, ou les SMS ou le téléphone portable, je ne suis pas un virtuose là-dedans, mais peuvent être des outils antibureaucratiques. À partir du moment où, évidemment, ça brise un des ressorts de l'autorité bureaucratique était le monopole de l'information, aussi bien dans les syndicats que dans les partis d'ailleurs. Parce que les tendances bureaucratiques inhérentes à tout système d'organisation, ça ne vaut pas que pour les partis, ça vaut pour les associations. Les ONG ne sont pas les moins bureaucratiques des organisations. Et les formes d'organisation les plus informelles ne sont pas les moins bureaucratiques, loin de là. Ça peut être des bureaucraties bonapartistes. J'ai fréquenté d'assez près Cohn-Bendit à partir de 68, pour que il a toujours été un petit parti, une boutique à lui tout seul, mais d'autant moins contrôlé. Donc moi, je crois qu'il faut privilégier le collectif, surtout aujourd'hui, que les moyens de communication transversaux sont des moyens justement de limiter le monopole de l'information, donc du pouvoir bureaucratique, mais qu'en même temps, si au nom des inconvénients, on plongeait dans l'informalité des réseaux, ça serait une régression démocratique majeure, et elle nous guette. pas au sens de la gauche uniquement, comme phénomène social majeur.
D'un niveau théorique, est-ce qu'il n'y a pas, alors là je parle à gauche en général, un manque de référence théorique commune, voire un manque de référence théorique tout court, ou un manque de production intellectuelle à gauche, voire des intellectuels à gauche qui seraient trop ignorés, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi à ce niveau-là?
Il n'y a pas de raison que les intellectuels aient mieux résisté que les autres. Je considère que si on regarde la liste des soutiens à Ségolène Royal au premier tour, même si ça a eu aucun effet électoral, dans le monde intellectuel, c'est une débâcle pour moi. Pas seulement parce que, enfin, il y a des soutiens, je dis bien au premier tour, hein, au second tour, bon, contre Sarkozy, c'était évident, mais là c'est un soutien positif dès le premier tour. Alors si on regarde la liste, il y a des gens respectables comme Benjamin Stora ou d'autres qui sont socialistes, donc c'est pas une surprise. Mais toute une aile parmi les plus radicales de la critique sociale, des héritiers de Bourdieu comme Loïc Vacan, gens comme Bouveresse qui est édité par Agone, donc qui n'est pas dans le consensus, Manuel Théré qui est un soutien indéfectible des sans-papiers, etc. François Maspero, qui pour moi est une icône d'une gauche radicale et intransigeante, bon, ça a été là le ralliement quasi unanime. Alors, je crois que c'est possible en partie pour la raison que vous dites, c'est qu'il n'y a plus d'assises théoriques, ça existe, mais à la marge. Alors le phénomène est plus contradictoire, parce que je pense qu'il y a, en fait, il y a des ressources de résistance et de critique sociale à gauche, mais premièrement, je crois que ce travail, disons intellectuel, même si le mot est discutable, critique, a subi l'évolution évoquée en son temps par Foucault de l'intellectuel généraliste, alors peut-être que la figure est complètement obsolète, à l'intellectuel spécifique. Donc il y a des savoirs, des compétences chez les chercheurs, etc., mais en gros, c'est plus la figure du grand intellectuel conscience de l'époque, Sartre, ou peut-être le dernier en date, Bourdieu. Bon, ça, c'est un fait sociologique, on ne va pas pleurer dessus. Le problème, c'est que ça existait aussi avant, mais qu'il existait des catalyseurs politiques pour que ces ressources intellectuelles s'articulent, non pas se subordonnent, mais s'articulent à une démarche politique. C'était essentiellement, en France, le Parti communiste, en moindre mesure, le Parti socialiste qui a joué ce rôle-là, ou en Angleterre, autour du Parti travailliste. Or, ces ressources existent aujourd'hui, mais elles ne sont plus cristallisées nulle part. Donc, elles s'expriment dans des terrains corporatifs, dans des recherches de haut niveau, dans de l'invention, etc. Mais tout ça, malgré les facilités d'Internet, ne fait pas un ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut faire du lien entre tout ça? Bon, ça soulèverait des problèmes, y compris théoriques importants, sur les catégories de systèmes, de totalité, leur validité actuelle, etc. Mais je crois que l'élément unificateur possible, c'est un certain marxisme critique. Or, aujourd'hui, il se porte très mal, c'est résiduel. J'enseigne dans un département de philo qui a eu, d'une certaine manière, une culture marxiste. Je ne dis pas parce que les gens avaient suivi leur trajectoire, mais quand même eu, que ce soit, quel que soit après la Révolution, Rancière, Lyotard, Badiou, Châtelet, tous ces gens-là avaient une culture marxiste, même si Deleuze, on ne peut pas dire qu'il ait jamais été ni politiquement ni théoriquement, mais connaissait bien. Aujourd'hui, c'est en voie de disparition, y compris par les modes de recrutement universitaire. Hein. Donc, je crois que Paris 10 et la revue actuelle Marx autour de Bidet étaient le dernier foyer, ou est encore, heureusement, le dernier foyer de ce type-là, qui permet d'organiser les congrès Marx comme celui, le 5e qui aura lieu à l'automne. Mais évidemment, le marxisme a subi aussi le contre-coup de la période d'effondrement du communisme étatique, je dirais, plutôt que du communisme avec la disparition de l'URSS et la réunification de l'Allemagne. Bon, maintenant, c'est peut-être qu'une phase. Bon, ça peut libérer, finalement, de la gangue d'un certain marxisme orthodoxe d'État et de parti, d'une orthodoxie marxiste de sinistre effet, ça peut libérer au contraire une réappropriation critique de Marx, de ses côtés obscurs, de ses contradictions, etc. Une société aussi brutale et aussi violente produit presque inévitablement sa critique. Le problème, c'est comment cette critique, là encore, s'articule à des projets politiques, parce que sinon on peut faire de l'excellente critique sociologique ou économique, etc. Mais bon, finalement, ça reste enfermé dans des ghettos intellectuels.